peut-être plomber les bonnes prétentions de Yaoundé.
D'accord, on reste avec vous, Emmanuel, hein, pour le temps pour moi de présenter les autres invités. Je dois signaler qu'on devait également avoir Georges Ewane, le porte-parole du Grand Dialogue National. Malheureusement, il s'est désisté au dernier moment. Nous avons tout de même depuis Yaoundé Ellie Smith, qui est journaliste sur place, et avec moi ici Herman Cohen. Herman Cohen, vous êtes ancien diplomate, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Voilà. Donc, je démarre également avec vous, Ellie Smith. Dites-nous, comment est-ce que cette annonce faite tout à l'heure par le Premier ministre concernant la mesure de grâce de plus de 300 personnes a été accueillie sur place?
Non, elle a été accueillie avec joie par les familles qui ont leurs enfants ou leurs femmes ou leurs maris détenus. Parce que vous savez, si vous avez des gens qui sont en détention une année, deux années ou trois années, et quand ils seront libres ou ils sont libérés, c'est toujours un source de joie. Bon, et puis ça pourrait aussi contribuer à sa manière à décrypter la situation.
D'accord. Alors, Herman Cohen, avant de vous poser la question sur même le fond du débat, cette mesure de libération annoncée, comment est-ce que vous l'interprétez?
Oui, je crois que c'est une bonne chose. Ça peut améliorer la situation. Et surtout, quand le président Biya a proposé un dialogue, ça veut dire qu'il a accepté que le gouvernement ne peut pas écraser les rebelles par la force. C'est déjà quelque chose de bien envers la paix. Mais est-ce que c'est un vrai dialogue? Je m'en doute. Je crois que c'est un échange de vues seulement.
Et quand on parle de forme de l'État, notamment le fédéralisme, vous pensez que c'est une question qui devait être sur la table?
Bien sûr, parce que le problème a commencé en 1972. À l'époque, il y avait une vraie fédération mandatée par les Nations Unies en 1960. Donc, les anglophones avaient 90% d'autonomie. Et ça marchait bien, mais en 1972, le président Ahidjo a ordonné un référendum pour abolir la fédération. Et bien sûr, comme les francophones sont en majorité, ils ont aboli la fédération. Mais c'était un référendum illégal. La fédération est mandatée par les Nations Unies. D'accord. Donc, il faut avoir le fédéralisme sur la table.
D'accord, on pourra y revenir. Alors, Emmanuel, dites-nous, que répondent les autorités aux reproches qu'en fait ce forum est quelque peu verrouillé, puisque le débat ne permet pas, disons, une discussion contradictoire? Que répondent les autorités à cela? Emmanuel?
Ellie Smith.
J'ai l'impression qu'on a perdu Emmanuel. Ellie Smith, je vais vous poser la même question. Les autorités disent quoi à cette question, qu'en fait il s'agit déjà d'un débat verrouillé?
Bon, écoute, ça c'est ce que les gens disent. Moi j'ai eu l'occasion d'y participer. Les débats n'étaient pas verrouillés. Par exemple, à la commission de décentralisation et autre chose, j'ai oublié cette terminologie. Je pense que dès le début, les autorités ont cru que peut-être on viendra faire le débat sur la décentralisation uniquement. Mais j'ai toujours dit, il y a un proverbe en anglais qui dit « No battle plans survive the war ». Moi, j'ai vu qu'il y avait eu dans ce commission une ample discussion. À un moment, il y a eu les anglophones menés par Agbabala, Eric Mba, qui sont sortis, et Agaga Aman Adi, l'ancien ministre de la fonction publique, elle avait convaincu de revenir. Et dans les résolutions, on a inscrit aussi le fédéralisme. Vous devez savoir que ce régime n'a pas eu à confronter ce genre de challenge existentiel. C'est la première fois et il ne savait pas que ça devait résister. Donc moi, je pense que oui, d'autres disent que les gens disent que il n'y a pas de débat. Mais moi, j'ai vu que dans cette commission en particulier, il y avait des arbres de débat. Maintenant, ce qu'on doit craindre, est-ce que toutes les propositions, les résolutions prises seront implémentées? C'est ça le problème du Cameroun.
Et justement, lors de son discours du 10 septembre, le président Paul Biya a promis le pardon aux séparatistes armés qui déposent volontairement les armes. Est-ce que son appel a des chances d'être entendu, surtout après l'annonce de ses libérations?
Bon, moi je ne pense pas qu'un appel que le président a fait va être entendu par tous les groupes séparatistes. Il faudra savoir que les groupes séparatistes aussi, c'est un groupe hétérogène. Donc, mais déjà, ce que je constate, il y a quelques groupes ou quelques combattants qui commencent petit à petit à se rendre, parce que beaucoup commencent à comprendre que l'aspiration d'un État indépendant de la Southern Cameroun est peut-être vouée à l'échec. Et puis, secondo, sur l'aspect militaire, bien sûr que l'État ne peut pas vaincre sur l'aspect militaire, mais les dégâts que l'armée nationale cause aux différents groupes séparatistes sont énormes. Mais est-ce que si que déposer les armes, ils vont le faire? Non. Je pense qu'après ce dialogue national, le gouvernement doit prendre les initiatives de prendre langue directement avec eux ou avec l'intermédiaire des individus qui sont mutuellement, puisque les deux camps font confiance mutuellement.
D'accord. Alors, Herman Cohen, cette question anglophone a été récemment remise sur la table en 2016, notamment avec la grève des avocats qui dénonçait un peu que le fait que certains textes réglementaires soient uniquement en français. Mais à défaut de l'indépendance, puisque l'indépendance est une question exclue par, disons, par le gouvernement, mais la partie anglophone, certains au niveau anglophone veulent un fédéralisme, mais est-ce que le boycott pour ces personnes était la solution? Il fallait au moins venir discuter.
Oui, je suis d'accord. Il faut jamais refuser la discussion. Mais je suis d'accord avec les anglophones. D'abord, l'État indépendant à West Cameroun n'est pas viable. Donc, il faut trouver une autre solution. À mon avis, le fédéralisme, c'est la vraie solution. Parce que maintenant, sans le fédéralisme, la culture anglophone est en train de disparaître. La culture française est en train de prendre le contrôle dans l'enseignement, dans le judiciaire, etc. Donc, à mon avis, il faut une autonomie pour l'anglophone du Cameroun, comme il y avait avant 1972. Ça, c'est la vraie solution.
D'accord. Alors, Ellie Smith, les séparatistes ne demandent même pas le fédéralisme, comme je le disais tout à l'heure au secrétaire Cohen. Et ils demandent l'indépendance tout simplement. Pensez-vous que c'est possible? Et surtout, avez-vous entendu parler, par exemple, lors de ces discussions, disons, du statut spécial possible pour ces régions anglophones? Est-ce que c'est une question qui est évoquée?
Oui, il y avait d'abord la séparation ou l'indépendance que prône une frange ou des séparatistes. Je pense qu'eux-mêmes savent dans leur âme conscience que c'est impossible. Impossible pour une raison simple. Face à eux, vous avez le grand Nigeria qui a aussi déjà des velléités indépendantistes. Donc, je pense que même si le gouvernement camerounais voulait même faire des concessions, elle va se heurter face à l'opposition nigériane. Et deuxièmement, pour avoir un État, il faudra que ceux qui veulent avoir cet État aient la capacité d'être comme les hommes et les femmes d'État et doivent être organisés dans un groupe. Mais vous allez découvrir que ceux qui prônent l'indépendance, c'est un groupe conflictuel entre eux, mal organisé, qui n'ont pas le fait de l'indépendance comme maintenant. Il y a pendant les discussions, s'il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir un statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans le Cameroun. Ça, c'est les gens qui pensent, bon, au lieu d'accepter le fédéralisme, on est un État décentralisé, mais avec une spécificité spéciale pour ces zones pour préserver leurs identités.
D'accord. Alors, Emmanuel, quelle est la prochaine étape? Que va-t-il se passer à la fin des travaux demain?
Alors, il va d'abord falloir que les participants à ce dialogue national s'entendent sur la rédaction d'un communiqué final. Bon, on peut s'imaginer que ce soit peut-être le moindre mal. Sans doute qu'on va y arriver. Et puis, on imagine qu'on va remettre la copie finale à celui qui avait convoqué ce grand dialogue national, c'est-à-dire le président Biya. Et puis, sans doute avec ses conseillers, il verra ce qu'il y a lieu de faire à l'urgence. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la question du fédéralisme. À cet effet, justement, il y avait toute une commission dénommée Commission de la décentralisation et du développement local. D'après nos informations, il y a eu de très longues. Il y a eu une intensité de débat au sein de cette commission parce qu'il y en a qui voulaient effectivement qu'on puisse passer au fédéralisme. Mais finalement, à ce qui semble, il a été proposé une décentralisation très accentuée avec des spécificités pour les deux régions anglophones, comme l'a dit mon prédécesseur. Donc, on peut s'attendre à ce que, après la fin du dialogue national, peut-être dans le délai de 6 mois, comme l'a demandé le leader du social-démocratique Front, John Fungi, qu'on puisse aboutir à un processus de décentralisation qui tient vraiment compte des spécificités des deux régions anglophones. Voilà un peu, si je me jette là un peu en conjecture, mais il reste que c'est le président Paul Biya qui détient vraiment le calendrier de ce qui va se passer après la fin du dialogue national.
Donc un peu pour dire que c'est Paul Biya qui aura le dernier mot. On va suivre en tout cas. Nos téléspectateurs ont également été très nombreux à réagir sur notre page Facebook. Marie-Jeanne Abega à Yaoundé nous dit que le dialogue est un passage obligé. Ce que je dénonce, c'est la configuration. La tempérance du Premier ministre est admirable, mais un médiateur indépendant aurait connu l'adhésion de la majorité. J'ai pensé à Hélène Johnson-Sirleaf, Catherine Samba-Panza ou Monseigneur Desmond Tutu. Omar Boulalé à Djibouti estime que le dialogue est utile, mais il doit être sincère et bénéfique pour tout le monde. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et puis, Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit que la décrispation ne viendra que si les leaders des séparatistes sont associés à cette concertation. Par ailleurs, les autorités sont tenues de développer les deux régions anglophones au même titre que les zones francophones. Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions sur la page Facebook de VO Afrique. Merci de rester fidèle à VO Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum, Abdourahman Dia à la présentation. Nos invités, donc, je signale qu'on devait avoir Georges Ewane, le porte-parole du Grand Dialogue National, qui malheureusement n'est plus disponible. De Yaoundé, nous avons Ellie Smith, qui est journaliste sur place, et avec moi ici à Washington, Herman Cohen, ancien diplomate, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Nous avons également en ligne notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap. Et que pensent les citoyens camerounais de ce Grand Dialogue National? Quelques Camerounais se sont exprimés sur la conduite de cette initiative et sur la présence de 30 ex-combattants à Yaoundé à l'occasion. Emmanuel Jules Tap les a rencontrés dans les rues de la capitale camerounaise.
Il faut que le dialogue proprement dit soit sincère, soit sérieux, soit conséquent, soit profond.
L'État a déjà la solution à ces problèmes-là. Maintenant, c'est de faire appel à ces jeunes, à ces personnes, de leur faire comprendre que non, le pays est avec vous, nous aussi nous sommes avec vous, nous vous soutenons.
Pour moi, c'est une bonne aubaine, parce que cette histoire, aujourd'hui, nous voici aux abois en pleurs de voir qu'il y a une division qui s'établit alors qu'il n'y a pas raison de l'avoir. Nous sommes tous Camerounais, nous sommes tous frères. Je ne suis pas fier de voir que mon frère meurt de suite d'une quelconque raison qui n'a même pas de place.
Que les 30 jeunes dites ex-combattants sont là, pour moi, ne me donne pas l'assurance qu'il y aurait fin de problèmes dans le Nozo, mais j'ai plutôt peur qu'il peut avoir une continuité dans ce problème. Venez bien parler, c'est bien bon comprendre que eux ils ont l'habitude. Quand je dis eux ils ont l'habitude, ceux qui nous dirigent, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je dis bien ceux qui nous dirigent, parce que ces 30 jeunes, il faut bien comprendre que c'est ceux que les chargés de mission sont allés avant les convaincre. Et ce n'est même pas sûr que c'est ceux qui sont dans les camps, qui sont dans les brousses.
Voilà donc quelques réactions de Camerounais à Yaoundé. Alors, Herman Cohen, on l'a vu, hein, ce dialogue suscite beaucoup d'espoir à Yaoundé, mais au niveau international aussi, on a vu que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait encouragé le gouvernement à aller dans ce sens. Pensez-vous que la communauté internationale peut aider à résoudre cette crise anglophone?
Je crois que oui. Vous savez déjà que la Suisse a fait une offre d'être intermédiaire. Moi, je crois que les Suisses sont excellents dans ces affaires. Même les États-Unis pourraient être médiateurs, comme moi j'ai fait dans la guerre d'Érythrée et Éthiopie. Et je crois qu'il vaut mieux avoir quelqu'un au milieu en train de médier, parce que les problèmes sont très profonds. Et je crois que le dialogue est bon, mais il faut quand même une aide de l'extérieur.
Je sais que vous êtes à la retraite, si on peut le dire ainsi, mais vous suivez un peu la position du gouvernement américain. Est-ce que le gouvernement américain a pris une position dans ce sens?
Le gouvernement a encouragé le dialogue, a critiqué le gouvernement pour avoir minimisé la culture anglophone. Et je crois que si on demande, le gouvernement américain sera prêt à intervenir comme médiateur. J'en suis sûr.
D'accord. Alors, Emmanuel, le pouvoir de Yaoundé ne semble pas très enthousiaste à l'idée d'un médiateur étranger. Est-ce que c'est d'abord le cas et pourquoi?
Alors, il faut effectivement dire que lorsque le 10 septembre dernier, le chef de l'État avait convoqué ce grand dialogue national, ça avait été un peu une surprise générale pour un certain nombre d'observateurs locaux ou internationaux que le président d'IA ait décidé d'opter pour une résolution finalement, on va dire, camerounaise de la crise anglophone. C'est d'autant plus que la médiation suisse, semble-t-il, était déjà en bonne voie et que certaines grandes nations s'étaient proposées d'une manière comme d'une autre à pouvoir aider le Cameroun. En plus, les chefs séparatistes qui pilotent les groupes armés qui sont à l'étranger ont semblé manifester un certain engouement à discuter avec le gouvernement camerounais si et seulement si il y avait une médiation internationale. Finalement, tout cela a été bouté en touche, tout se passe à Yaoundé, et c'est là justement des points d'interrogation sur ce à quoi pourrait aboutir vraiment ce grand dialogue international. Quand on sait qu'il a été convoqué par le président Biya, dirigé par le Premier ministre, qui est dans le même parti que le président Biya, la plupart des participants, certes, ce sont des Camerounais, mais ils sont majoritairement des militants du parti au pouvoir, alors on se pose la question de savoir est-ce que peut-être qu'il pas qu'il y ait une caution internationale au grand dialogue national. Bon, il reste que, et ça c'est ce qui s'est dit, il reste que après le comité final, après les résolutions finales, le président Biya verra peut-être dans quelle mesure il pourrait associer les amis du Cameroun pour arriver et parvenir à une résolution parfaite de la crise anglophone.
D'accord. Alors, Ellie Smith, pensez-vous que le gouvernement doit accepter la médiation internationale dans le règlement de ce conflit?
Je pense que oui, le gouvernement doit demander l'aide de la communauté internationale. Mais d'abord, vous devez savoir que le Cameroun, c'est un État souverain. Ils doivent d'abord, parce que ce problème s'est allongé, c'est le refus de prendre langue directement avec ces indépendantistes, ceux qui sont aux États-Unis ou en Norvège. Mais j'ai un petit bémol, et ça, un homme peut le dire, à propos de la Suisse. Quel qu'en soit ce qu'on peut me dire de la Suisse, dans ce conflit, le gouvernement suisse a été maladroit. Dit que la plupart des indépendantistes ont soutenu la proposition suisse et agi pour. Le Amazonian Governing Council de Chouayaba ne l'avait pas soutenu. Donc, je pense que autre chose, le gouvernement suisse devait mener ce procès de le. Mais de temps en temps, nous avions suivi des déclarations faites par le gouvernement suisse qui a heurté la susceptibilité des gouvernements camerounais. Parce que quand vous vouliez mener ce genre de négociations, des opérations, vous deviez savoir être humble et faire des choses sous la table.
Eli, quand je parle de la communauté internationale, je pense également aux pays africains, notamment aux voisins. Le Nigeria, par exemple, qui a livré ses indépendantistes au Cameroun, est-ce que le Nigeria, par exemple, peut être utile d'une manière ou d'une autre, ou bien vous pensez que une partie pourrait...
Le Nigeria, je pense, pour l'instant, ne peut pas jouer un rôle neutre et objectif. Parce que actuellement le gouvernement de Abuja prend cette cause avec Yaoundé. Mais par contre, il y a d'autres États africains, comme le Ghana, comme le Kenya, ou les pays de l'Afrique australe, qui peuvent être neutres et qui ont une crédibilité que le gouvernement et les indépendantistes peuvent les accepter. Et vous devez savoir qu'on a aussi une susceptibilité africaine. C'est bien beau et c'est que votre suggestion est bonne. Il faudra qu'on commence à penser que les pays africains cités doivent jouer un grand rôle au lieu de penser que c'est directement ça doit être géré par les Suisses.
D'accord.
Et par contre, aussi un autre pays occidental qui peut jouer un rôle.
D'accord. On va. Je crois qu'on a bien compris. Merci beaucoup, Eli. Alors rapidement, Herman Cohen, il y a en fait cette crise humanitaire avec des dizaines de milliers de déplacés en zone anglophone, des écoles fermées ou en tout cas ne fonctionnant pas bien. Justement, c'est une raison pour la communauté internationale de s'impliquer. Pas forcément venir imposer une quelconque solution, mais au moins se rendre disponible. Au moins pour aider ces populations.
Oui, vous avez raison. Une fois que la communauté internationale est impliquée, par exemple, s'il y a un médiateur, les deux côtés auront un peu de confiance que le monde ne va pas laisser ça traîner. Et ils auront la confiance de cesser le feu, par exemple, tant qu'il y a des négociations. Donc, à mon avis, c'est très important d'avoir une intervention aussi peut-être de l'Union africaine. Ils ont fait de bon travail dans certains pays, comme la Somalie, par exemple. Donc, il faut avoir la communauté internationale impliquée.
D'accord. Merci beaucoup, Herman Cohen. Je termine rapidement avec vous, Emmanuel Jultap, en 15 secondes. Quelle est un peu l'atmosphère aujourd'hui, comparée, par exemple, à mardi, quand on a annoncé le départ de grosses pointures de la discussion, rapidement? 10 secondes.
Oui, je pense que ça a été un peu une secousse de faible amplitude. Quelques-uns sont revenus. Je parle en présence du Premier ministre et comme je vous ai dit, c'est la grande plénière, la discussion pour pouvoir tomber d'accord sur un compromis final.
Voilà.
Je pense que les participants veulent aboutir à quelque chose qui t'intéresse.
Voilà. Merci beaucoup.
Le président d'IA soit...
Merci beaucoup, Emmanuel. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.